VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 9 juin 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sidoulia. Tout d'abord les titres. Donald Trump annonce avoir été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. Une autre première pour un ex-président américain. Trouble au Sénégal, Amnesty International parle de 23 morts et réclame une enquête. En Guinée-Bissau, l'opposition remporte la majorité absolue au Parlement et impose une cohabitation au président Oumaro Sissoko Embalo. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale, promet de se battre pour la propreté de son nom. L'émissaire de l'ONU déclaré persona non grata au Soudan. Les États-Unis ne demandent pas de choisir entre eux et la Chine, précise à Riyad le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ne manquez pas notre page sport avec Yacouba Ouédraogo. Pour l'instant, le journal. L'ancien président américain Donald Trump a annoncé hier avoir été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. Il s'agit d'une nouvelle embûche pour le candidat républicain qui rêve de reconquérir la présidence en 2024, Mohamed Oumfa.
C'est sur son réseau social Truth Social que Donald Trump a annoncé qu'il a été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. L'administration corrompue de Joe Biden a informé mes avocats que j'ai été inculpé, vraisemblablement dans la fausse affaire des boîtes, a-t-il écrit en référence au carton de documents qu'il a emporté avec lui en quittant Washington. Le milliardaire, dont le domicile de Floride avait été perquisitionné l'été dernier par des agents du FBI à la recherche de ses dossiers, a fait savoir qu'il était convoqué mardi devant un tribunal fédéral à Miami. Son avocat Jim Trusty a précisé sur la chaîne CNN que son client se rendrait à cette convocation et qu'il faisait l'objet de 7 chefs d'inculpation, notamment en vertu d'une loi sur l'espionnage qui interdit de garder des documents classifiés dans des endroits non autorisés et non sécurisés. « Je suis innocent, je n'ai rien fait de mal », a-t-il assuré dans une vidéo mise en ligne sur Twitter en dénonçant ce qu'il considère comme de l'ingérence électorale au plus haut niveau. Monsieur Trump s'est toujours présenté comme victime d'une persécution politique.
Merci Mohamedou. Autre développement majeur aux États-Unis, la Cour suprême a invalidé jeudi une carte des circonscriptions électorales adoptée par les élus républicains en Alabama, dans le sud du pays, accusée de discrimination contre les électeurs noirs, John Lyndon.
À une courte majorité des 5 juges sur 9, le temple du droit américain a refusé au passage de détricoter un peu plus la grande loi sur les droits civiques de 1965 au grand soulagement des défenseurs des minorités. Ce texte, le Voting Rights Act, avait été adopté pour empêcher les anciens États ségrégationnistes de priver les Afro-Américains du droit de vote, mais a été vidé ces dernières années d'une partie de sa substance par la Haute Cour. Ce dossier était perçu comme une nouvelle tentative de l'affaiblir. L'arrêt de la Cour préserve le principe qu'aux États-Unis, chaque électeur doit être en mesure d'exercer le droit constitutionnel à voter sans être discriminé, a salué le ministre de la Justice, Merrick Garland, dans un communiqué. C'est une bonne chose pour la démocratie, a ajouté le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, depuis l'hémicycle. Sur ce découpage des républicains, les électeurs noirs qui votent majoritairement démocrates n'étaient majoritaires que dans une seule des 7 circonscriptions de l'État, alors qu'ils représentent 27% de sa population. La nouvelle carte passait également au milieu d'une région majoritairement noire, la Black Belt, et la coupait en deux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Amnesty International a indiqué hier avoir décompté 23 morts dans les troubles qui ont secoué le Sénégal la semaine dernière, davantage que le bilan officiel de 16 morts, et a exigé une enquête indépendante. Le Sénégal a été en proie du 1er au 3 juin à ses pires troubles depuis des années après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo conteste sa radiation de la liste électorale, affirmant ne jamais reconnaître sa condamnation judiciaire sur laquelle la Commission électorale indépendante dit fonder cette décision. C'est dans une réclamation que l'ex-président ivoirien a adressée ce jeudi. Les détails avec Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Face à la presse, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, combatif, explique sa décision de contester son exclusion.
On n'a pas mis mon nom sur la liste électorale, prétextant que j'ai été condamné après un procès parce que j'aurais braqué la BCAO. Je réfute avec vigueur une telle accusation. D'abord, on ne juge pas un ancien président de la République devant n'importe quelle juridiction. Deuxième argument, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé ma réinscription sur la liste électorale. Troisième argument, je ne sais pas pourquoi on m'a jugé. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, je n'ai eu aucun document ni avant le procès, ni après le procès. Ici, quand on apprend que je suis acquitté à ce pays, clandestinement, on me met sur le dos une accusation. Non, c'est trop politicien, ce n'est pas digne d'être appelé un procès.
Par ailleurs, l'ancien président ivoirien a souhaité que le président Alassane Ouattara, l'ex-président Henri Konan Bédier et lui-même Laurent Gbagbo laissent aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée, puis d'ajouter « et c'est ça qui doit être notre objectif », a-t-il estimé. Laurent Gbagbo a conclu en réaffirmant sa détermination à se battre pour la propriété de son nom. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Victoire de l'opposition bissau-guinéenne aux législatives de dimanche, le président Umaro Sissoko Embalo a reconnu la défaite de son parti, Lionel Gahima.
La coalition Païtera-Ranka du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, parti fondé par Amilcar Cabral, a remporté 54 sièges, soit la majorité absolue. Le MADEM G15, coalition du président Mbalo, est crédité de 29 sièges et le Parti du Renouveau Social de 12. Le président Mbalo s'est adressé à la nation peu après l'annonce des résultats. Je félicite Païtera-Ranka pour la victoire de la confiance que le peuple lui a donnée. En respectant ce résultat, je nommerai le vainqueur des élections législatives Domingos Chimoes Pereira, Premier ministre, a-t-il annoncé, ajoutant « Nous n'allons pas cohabiter, nous allons marcher ensemble ». Au pouvoir depuis 2019, le président Mbalo avait dissous l'Assemblée nationale en mai 2022. Selon les observateurs, sa défaite aux urnes est due à des dissensions au sein du parti MADEM G15 et à l'incapacité du président à résoudre le problème de la chute du prix de la noix de cajou, importante source de revenus de la population. Les quelques 200 observateurs internationaux ont affirmé que le scrutin a été libre, transparent et apaisé.
Les services de sécurité du Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes récurrentes, ont publié hier une liste de 20 terroristes activement recherchés, offrant des primes pour leur arrestation ou leur neutralisation allant de 150 000 à 275 000 euros. Les portraits des individus concernés ont été diffusés sur les médias locaux. En tête de liste, Sidi Bé Drahmane alias Hamza et Diallo Moussa alias Abou Ganiou, âgés respectivement de 45 ans et 40 ans. 180 millions de francs CFA sont offerts pour la capture de chacun d'eux. L'émissaire de l'ONU au Soudan, l'allemand Volker Perthes, a été déclaré persona non grata par le gouvernement du pays, a annoncé hier le ministère des Affaires étrangères. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait réclamé son limogeage l'accusant d'être responsable de la guerre qui a éclaté mi-avril entre ses forces et celles des paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo. Selon lui, il aurait dissimulé dans ses rapports la situation explosive à Khartoum avant le déclenchement des hostilités. Sans ces mensonges, le général Daglo n'aurait pas lancé ses opérations militaires, a soutenu le général Abdel Fattah al-Burhan. Les États-Unis ne demandent ni à l'Arabie saoudite ni à personne de choisir entre eux et la Chine. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken hier, à la fin d'une visite de 3 jours dans la puissante monarchie du Golfe, Jacques Aristide.
Nous essayons simplement de démontrer les avantages de notre partenariat, a déclaré le patron de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue saoudien Faisal Ben Farhan, qui a lui confirmé que les relations entre son pays et la Chine allaient probablement grandir tout en maintenant un partenariat de sécurité solide avec les États-Unis. « Je n'adhère pas à ce jeu à somme nulle. Nous sommes tous capables d'avoir des partenariats et des engagements multiples, comme c'est le cas des États-Unis », a insisté Faisal Ben Farhan. Partenaires de longue date, Riyad et Washington entretiennent des liens parfois tendus, notamment sur la question des droits humains, au moment où Pékin a solidifié ses rapports commerciaux et diplomatiques au Moyen-Orient. Lors de son séjour dans le Royaume, près d'un an après celui du président Joe Biden, Anthony Blinken a cherché à adoucir d'autres points de divergence, notamment sur le régime syrien, avec lequel l'Arabie saoudite a récemment normalisé les relations. Le secrétaire d'État américain a également abordé une série de questions régionales, dont le conflit au Soudan, où Washington et Riyad s'efforcent d'être médiateurs.
La pollution provoquée par les incendies de forêt au Canada perturbe la vie de millions d'Américains. Distribution de masques, vols retardés pour cause de faible visibilité, événements en extérieur annulés de l'Illinois au nord à la Caroline du Sud, inquiétude pour la santé de dizaines de millions d'Américains, en particulier celle des personnes fragiles comme les enfants, les personnes âgées ou celles ayant des problèmes cardiaques ou respiratoires. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Gabon remplace le Cameroun pour la CAN des moins de 23 ans.
Oui, les Panthères U23 avaient été auparavant disqualifiés de la CAN de leur catégorie au profit du Cameroun à cause d'une erreur faite pendant l'enregistrement du joueur Floris Diawé dans le système de la CAF. Le Gabon n'avait pas enregistré une date de naissance correcte pour Floris Diawé et avait été disqualifié. Le jury d'appel de la CAF a blanchi le pays et les espoirs gabonais prendront donc part à la CAN des moins de 23 ans au Maroc du 24 juin au 8 juillet prochain. D'abord éliminé sur le terrain, puis qualifié sur recours, le Cameroun est de nouveau out et dispose de 10 jours pour déposer un recours devant le TAS, le tribunal arbitral du sport.
Le syndicat FIFPro s'inquiète de la surcharge de matchs des joueurs.
L'inflation des compétitions et des matchs a provoqué une surcharge du temps de jeu de nombreux joueurs. C'est ce que déclare le syndicat des joueurs FIFPro, qui dit s'inquiéter des projets d'extension de la Ligue des champions et du Mondial des clubs. C'était à l'occasion de la présentation de son rapport intitulé « Congestion extrême du calendrier, des effets néfastes sur la santé et le bien-être des joueurs ». Selon les chiffres de l'organisation, le Brésilien Vinicius Junior a joué à 22 ans, près de 19 000 minutes, deux fois plus que Ronaldinho au même âge. À 20 ans, l'Espagnol Pedri et l'Anglais Jude Bellingham ont disputé respectivement 25 et 30% de temps de jeu, en plus que Xavi et Wayne Rooney. Le rapport ajoute que Kylian Mbappé a déjà près de 27 000 minutes de jeu en équipe première de club et en sélection à seulement 24 ans.
Mondial féminin, la FIFA va garantir 30 000 dollars à chaque joueuse.
Les 736 participantes au Mondial féminin de football en Australie et en Nouvelle-Zélande vont recevoir au moins 30 000 dollars chacune, une garantie inédite saluée par le syndicat des joueurs FIFPro. La FIFA a confirmé le triplement de la dotation globale du tournoi prévu du 20 juillet au 20 août prochain par rapport à l'édition 2019 en France. 152 millions de dollars seront distribués, soit 10 fois plus que pour le mondial 2015 au Canada. La nouveauté réside dans le fait de réserver une partie de cette enveloppe à la rétribution de chaque joueuse plutôt que de laisser les fédérations participantes utiliser la dotation. Les joueuses éliminées lors de la phase de poule percevront 30 000 dollars, 60 000 pour les huitièmes de finalistes, 90 000 pour les quarts de finalistes, 195 000 pour les finalistes et 270 000 dollars pour les futures championnes du monde.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La protection de la biodiversité marine au Cameroun est insuffisante selon les conclusions d'un symposium international à Kribi au sud de Yaoundé. Les défis persistent en raison d'une législation obsolète et d'un manque de ressources pour assurer une meilleure protection des aires marines. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Tap.
La biodiversité marine camerounaise est riche, mais reste sous la menace de certains phénomènes. Aristide Takoukam, président de l'Organisation pour la conservation des mammifères africains, AMCO.
L'action humaine occupe la place la plus importante en ce qui concerne la menace. L'une de ces menaces-là, c'est la pêche illégale. On parle aussi de la pollution plastique surtout. Et même à côté de cela, nous avons même de la pollution chimique qui malheureusement n'est pas et très peu exploré dans notre pays.
La loi de 1994 qui réglemente les activités de pêche préconise que 30% des écosystèmes devraient être protégés au Cameroun. Le pays est à 23% du niveau d'implémentation de cette disposition dans les deux aires protégées marines créées. Gordon Adjunina, coordonnateur Cameroun Wildlife Conservation Society.
Ce qui est très important maintenant, c'est le financement de cette aire protégée. Il faut chercher des sources de financement et plans de financement. C'est la capacité énorme traduite jusqu'au niveau local. Comment on peut continuer à maintenir l'intégrité de cet écosystème de telle sorte à éviter la dégradation. On a la dégradation 1% terrestre et nous ne pouvons pas mesurer aussi le niveau de dégradation côtière, pollution et autres.
Les autorités disent poursuivre les efforts engagés en matière de protection de la biodiversité marine camerounaise. Bertrand Georges Ndozumu, chef service des aménagements et des inventaires fauniques à la direction de la faune et des aires protégées.
L'aire protégée se gère à partir d'un document appelé plan d'aménagement. Toutes les aires protégées du Cameroun n'ont pas encore ce document de gestion. Nous avons pensé qu'il était déjà important de mener des réflexions sur les autres mesures de conservation efficaces par zone.
Les experts soulignent pour leur part qu'il y a lieu de changer la législation en vigueur pour améliorer la protection des aires marines. Aristide Takoukam, président de l'Organisation pour la conservation des mammifères africains, AMCO.
Il n'y a aucune loi au Cameroun qui protège les espèces de requins et raies, quand bien même certaines de ces espèces sont menacées. Alors, une loi qui ira dans le sens, n'est-ce pas, de protéger ces espèces-là sera déjà une première étape. Ensuite, il faudra bel et bien implémenter cette loi-là pour qu'il y ait vraiment une dissuasion réelle.
Le symposium de Kribi a réuni plusieurs pays et certains, à l'instar du Sénégal, ont partagé leur expérience en matière de gouvernance des aires marines. Aïssatou Dia, de l'organisation Venture Conservation.
Les communautés eux-mêmes, en fait, veulent de plus en plus être, non seulement le gouvernement les implique, mais eux-mêmes, ils veulent de plus en plus être impliqués.
Au Cameroun, 4 espèces rares de tortues marines sont sous la menace de la pollution plastique. Ces tortues marines confondent les déchets plastiques aux méduses. Emmanuel Jumtap Kribi, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Québec, durement frappé par des incendies historiques, attend avec impatience des renforts internationaux, tandis que les fumées des quelques 400 brasiers canadiens touchent les États-Unis, où 100 millions d'Américains respirent un air de mauvaise qualité. Pour expliquer ce phénomène, Jean-Roger Bion a joint à Montréal, au Québec, le météorologue Simon Legault.
Certains feux se sont déclenchés, certains feux de forêt, par activité humaine ou par des phénomènes comme la foudre. Mais le 1er juin, on a eu beaucoup d'orages qui se sont produits au Québec et très peu de précipitations avec les orages. Donc, beaucoup de feux, plus d'une centaine de feux ont été allumés à ce moment-là. Et donc, la situation s'est envenimée rapidement. Beaucoup de feux, beaucoup de fumée. Et par la suite, les panaches de fumée, donc, a été transporté vers le sud de la province du Québec, mais aussi vers tout le nord-est des États-Unis. Et donc, le panache se retrouve présentement quand même du côté de grandes villes comme New York ou Washington. Et selon la direction des vents, le panache devrait éventuellement quitter ces régions-là, mais il est transporté sur de très grandes distances.
Pourquoi quelque chose qui se passe au Canada affecte particulièrement les États-Unis, dont les villes sont plus au sud? Pourquoi ce phénomène de transversement?
Oui, ben le transport se fait par les vents. Donc, les vents viennent du nord présentement. Les feux sont quand même un peu plus au nord dans le Québec. Et les vents du nord vont pousser le panache de fumée vers le sud, vers les États-Unis, vers les régions habitées du sud du Canada et les grandes villes américaines aussi. En fait, tout le monde voit cette fumée-là ou la ressent parce que la fumée se maintient près du sol et affecte la qualité de l'air qui est respiré. Donc, transporté parce que la position des dépressions et des anticyclones fait que les vents sont vraiment du nord et transportent très loin vers le sud les panaches de fumée.
Est-ce qu'il y a moyen de lutter contre le transport de ces fumées qui font quand même, il faut le dire, du mal aux populations?
On ne peut pas changer la direction des vents, ça c'est certain. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est travailler sur la source de la fumée, donc les feux, la forêt qui brûle présentement. Donc, la province et même les forces armées canadiennes aident à combattre les feux au Québec présentement. Il y a des feux ailleurs aussi au Canada, mais au Québec, c'est très intense présentement. Donc, les feux sont combattus par les autorités de la province du Québec, mais ce qui aiderait beaucoup, c'est avoir de la pluie. C'est la principale chose qui pourrait aider au combat des feux de forêt. Et donc, cette pluie-là n'est pas attendue tout de suite. Il tombe quelques gouttes présentement à certains endroits, mais c'est pas beaucoup. Et donc, on espère qu'au début de la semaine prochaine, un système météorologique avec de la pluie, environ mardi, devrait amener un certain soulagement. Mais il est encore incertain à savoir si les régions les plus touchées par les feux recevront de généreuses quantités de pluie.
Joint à Montréal, au Québec, le météorologue Simon Legault de Environment and Climate Change Canada. Ici aux États-Unis, le célèbre télévangéliste conservateur Pat Robertson, aux prises de position souvent extrêmes, est mort hier à 93 ans. Son décès a été annoncé par la chaîne de télévision CBN de Christian Broadcasting Network qu'il a fondée en 1960. Il a animé pendant des années une émission quotidienne ultra-conservatrice, The 700 Club, très suivie dans le monde entier. Quels étaient donc ses principaux enseignements et son influence sur l'Afrique? Eric Manirakidza a joint à New York l'historien Mohamed Bodj.
Pat Robertson est un évangéliste qui voulait un tout peu retourner à ce qu'il appelle les valeurs familiales américaines. Certaines de ces valeurs étaient un peu un sursaut contre la possibilité pour les femmes d'avoir l'égalité, de travailler hors de la maison, d'assumer des responsabilités au même niveau que les hommes. Il avait un peu l'idée qu'il fallait une femme chrétienne dans une famille chrétienne pour élever des enfants chrétiens. La deuxième chose qu'il a avancée, c'est l'idée que au-delà de ce qu'on peut appeler les systèmes politiques du genre libéral ou socialiste ou autre, l'électeur américain devrait être guidé par le spirituel et en particulier le leader de son église son appartenance à une communauté de pratiquants devait avoir la prééminence par rapport à ses orientations ou à ses choix politiques. Ce qui fait qu'on a assisté depuis donc l'émergence de l'influence de Pat Robertson, avec beaucoup d'électeurs américains qui votent conservateurs, souvent avec des motifs religieux sous-jacents, et aussi souvent contre leurs propres intérêts matériels. Par exemple, la plupart des politiques prônées par le Parti républicain est fondamentalement anti-pauvre et fondamentalement, disons, mime la qualité et la capacité de la famille à survivre, en particulier avec la suppression de l'aide gouvernementale, etc. L'immission dans les programmes scolaires crée une sorte d'intolérance religieuse qui se transforme en influence politique au niveau scolaire. Donc, beaucoup de choses comme ça qui, en fin de compte, beaucoup de lecteurs traditionnalistes, conservateurs vont suivre, et non pas parce que sur le plan social ou sur le plan économique, c'est à leur avantage, mais simplement pour des motifs strictement religieux.
Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait eu de l'influence sur le continent africain?
Oui, je pense bien. En fait, on peut le déceler dans beaucoup de pays africains où les religieux tapis dans l'ombre, peut-être pas avec pignon sur rue, comme on peut parler ici à la Pat Robertson, mais on sait que plusieurs régimes africains sont influencés de plus en plus par des mouvements conservateurs chrétiens ou des mouvements conservateurs musulmans, dans une moindre mesure. Mais très certainement, il y a des relents évangélistes. Dans beaucoup de pays africains, la population traditionnelle, dans les ménages traditionnels, disons, stagne. Les enfants, la procréation, la fécondité de ces gens, donc de ce côté de l'activisme et de l'activité chrétienne, sont un peu plus nombreux. Et donc, il y a une sorte de boom démographique de chrétiens fondamentalistes dans beaucoup de pays africains, du fait même de la démographie.
Mohamed Modge, professeur d'histoire à Manhattanville College.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Passons maintenant à cette histoire incroyable d'un jeune Africain amoureux de baseball. Au cœur du Maryland, l'équipe de baseball des Frederick Keys a présenté sa dernière sensation, un talent ougandais de 18 ans du nom de Dennis Kasumba. Le jeune homme a fait de son rêve une réalité, passant des matchs de baseball improvisés en Ouganda au terrain de baseball professionnel américain. Arzuma Compaoré a rencontré l'étoile montante à Frederick.
Dennis Kasumba a fait ses premiers pas officiels sur le sol américain le week-end dernier avec les Frederick Keys. Le jeune joueur, qui a perfectionné ses talents sur des terrains improvisés avec de vieux pneus et des bidons d'huile en Ouganda, se retrouve aujourd'hui au cœur de l'effervescence du baseball professionnel.
Je suis très heureux parce que c'est mon deuxième match. Mon premier match a été très très bon parce que j'ai affronté un lanceur qui lance à 150 km par heure. Oui, j'ai frappé la balle.
L'admiration pour Dennis Kasumba va au-delà de ses compétences sur le terrain. Son voyage de l'Ouganda aux États-Unis, suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, témoigne de sa détermination et est une source d'inspiration pour beaucoup. L'un de ses admirateurs est Joshua Williams, un avocat américain passionné de baseball qui a contribué à faire du rêve de Dennis une réalité.
Tout a commencé parce que j'ai vu une vidéo de lui en train de frapper une balle de baseball sur un pneu avec une bouteille de Coca-Cola. Je l'ai donc contacté sur Facebook et j'ai commencé à lui parler. Nous avons parlé de ses rêves et de ses aspirations. J'ai vu en lui le même courage que j'avais et il a plus de courage que moi.
Il a fallu à Dennis près de 2 ans pour obtenir un contrat avec la MLB et plusieurs tentatives auprès de l'ambassade des États-Unis en Ouganda pour obtenir un visa de voyage afin de jouer pour l'équipe de baseball des Frederick Keys. Pour son premier week-end de match, Denis a réussi non seulement à démontrer son talent exceptionnel, mais aussi à souligner son désir d'apprendre.
Quand j'ai vu que les balles de mes lanceurs atteignaient 140, 152 ou 157 km par heure, je me suis dit, est-ce que je peux frapper ces balles? Elles sont très rapides, mais quand je suis arrivé dans la première frappe, j'ai dit dans mon cœur, je peux frapper parce que je crois en moi.
Son voyage en Amérique, son séjour à Frédéric et ses rêves pour l'avenir. Lorsque Denis entre sur le terrain, bat en main, il ne joue pas seulement pour les Frederick Keys, il joue pour tous les rêveurs qui un jour ont osé rêver grand. Quel sera son prochain accomplissement dans ce voyage hors du commun? Nous serons là pour vous tenir au courant.
Merci Arzuma, voilà c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi, à la console Zoubeir El Taïb. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.